Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Depuis quelques années, les basketteurs européens se sont fait une place de choix sur les parquets américains dans la fameuse NBA qui fait office de référence pour tout joueur majeur. De Tony Parker à Giannis Antetokounmpo, en passant par Dirk Nowitzki ou Pau Gasol, ils ont tous marqué de leur empreinte le basket. Qui est le meilleur, celui qui mérite de figurer tout en haut du classement? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand joueur européen de l'histoire. Pour m'accompagner, quatre journalistes de la rédaction d'Eurosport, Glenn Cellier, Christophe Godot, Thomas Morel et Maxime Dupuis. Salut à tous!
Bonjour.
Salut.
Bonjour Maître Yo.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, vous en avez pris l'habitude, et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quel joueur avez-vous choisi de défendre, Glenn?
Et moi, j'ai pris un Espagnol, un ennemi de la France, Pau Gasol.
Christophe?
Tony Parker, évidemment.
Thomas?
Moi, c'était trop facile. Moi, j'ai voulu choisir Dirk Nowitzki. Voilà, comme ça, je ne pose pas vraiment de difficultés.
Et Maxime?
Moi, j'ai laissé passer la nostalgie à une époque où le mur existait encore, en partie, et je vais parler de Tony Kukoc.
Vous nous faites rêver, messieurs. On va passer un bon moment ensemble, je l'espère. J'ai cru comprendre que Thomas Morel voulait tuer le game, comme on dit d'entrée. Alors, pourquoi Dirk Nowitzki?
C'est ça. C'est mon premier podcast. Je trouve qu'ils sont souvent un peu longs, donc on va le régler en 2-3 minutes. J'ai choisi Dirk Nowitzki. Après, forcément, dans ma réflexion, il y avait pas mal de noms en commun avec mes petits camarades. Personnellement, parce que je vais parler forcément de joueurs que j'ai suivis, parce qu'après, on peut sortir les livres d'histoire, mais des joueurs que j'ai pas vu ou que sur les cassettes vidéo. Bon, je préfère parler de joueurs que j'ai vus en direct. Et donc, il faut faire un choix. Choisir, c'est éliminer. Donc, j'ai éliminé Tony Parker, le choix du cœur. J'ai éliminé Pau Gasol parce que je ne voulais surtout pas le choisir. Je laisse ça à Glenn, on en reparlera. Et je me rabats sur Dirk Nowitzki. Pourquoi? Parce que le basket, ça reste quand même pour moi un sport très spectaculaire où, certes, il y a de très belles défenses. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques, avec le contre qui est déjà dans la légende de Nico Batum à la dernière seconde. Mais on se souvient quand même avant tout des actions offensives. C'est un sport où on marque beaucoup de points. Et quand on parle de marquer des points, Dirk Nowitzki, il en a quand même marqué un bon paquet. Il est sixième sur le classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. C'est le meilleur européen. Il est derrière des Jordan, des Bryant, mais derrière lui, il y a des Shaquille O'Neal, des Tim Duncan, des Kevin Garnett, des légendes du Hall of Fame de la NBA qui sont derrière lui. Il a été MVP, il a gagné un titre en NBA, même s'il a eu pendant un moment une étiquette un peu de loose, parce que pendant des années et des années, ils avaient le meilleur bilan en NBA avec les Mavs. Et il avait du mal à confirmer en playoff. Il y a eu quelques moments un peu tristes pour lui. Je crois que c'est en 2007, justement, quand il est MVP. Il est sorti d'entrée au premier tour contre les Warriors. Ils ont le meilleur bilan et puis ils se font sortir par le 8e de la conférence Ouest. Je crois que ce n'était jamais arrivé sur un premier tour au meilleur des 7 matchs. Donc, il a eu cette étiquette un petit peu du Dirk with no D, sans défense, parce que c'est vrai que ce n'était pas le roi de la défense, Dirk Nowitzki, mais c'était le roi de l'attaque. Et il a révolutionné le jeu du basket pour moi avec ce fameux shoot fade away sur un pied qu'il est peut-être le premier, peut-être le seul à faire, un shoot qui est absolument incontrable. Et pour ces raisons-là, je trouve que c'est un exemple, c'est un modèle de qualité offensive en basket. Il est unique en son genre. Et puis aussi, j'aimerais saluer son côté fidélité au Mavs. Il a fait 21 saisons. Là aussi, c'est un record. 21 saisons dans la même franchise. Et à cette époque où il y a de plus en plus de mercenaires qui sont prêts à vendre leur âme au diable pour aller chercher quelques dollars en plus, lui, il est resté fidèle à sa franchise et il a été justement un franchise player, ce que n'ont pas été, par exemple, Tony Parker ou Pau Gasol. Voilà pourquoi, pour moi et malheureusement pour vous aussi, Dirk Nowitzki, c'est une évidence.
Messieurs,
Alors, je peux rebondir, je suis d'accord sur pas mal de points, et notamment sur le côté révolution. Je ne dirais pas qu'il a révolutionné le jeu du basket, mais il a révolutionné en tout cas son poste, parce que c'est vraiment un profil atypique, et il a aidé en tout cas à changer vraiment le jeu intérieur, c'est-à-dire ce cadre qui s'éloigne du panier, qui est capable d'aller prendre des tirs. Justement, t'en parlais de son shoot qui est légendaire, ce fadeaway incontrable, qui est tellement dur, étant donné sa taille, à aller chercher. Et je trouve qu'il a vraiment fait évoluer, c'est-à-dire que la NBA s'est élargie, et c'est notamment grâce à Dirk Nowitzki, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'est éloigné de la raquette. Avant lui, les 4 et les 5, c'est-à-dire les pivots et les ailiers forts, étaient souvent près du cercle et à essayer d'imposer leur puissance, etc., ou leur finesse, avec Kim, par exemple, Watchman. Lui, de plus en plus, le jeu a reculé. Les intérieurs sont allés de plus en plus loin, et c'est notamment grâce à lui. Je pense que la NBA moderne aussi existe, le jeu en tout cas de la NBA moderne. Et puis, il y a un truc qui me plaît avec Dirk, c'est ce côté franchise player. Il n'a jamais bougé de Dallas, et c'est le premier Européen qui, en gros, est devenu durablement le visage d'une franchise. Au fur et à mesure, c'est le seul pour moi c'est le premier, je veux dire, à l'avoir été, et qui a ouvert justement la porte à d'autres derrière. On en parlera évidemment, mais c'est quelque chose que maintenant on peut imaginer, c'est-à-dire qu'un Européen devienne le visage d'une franchise sur le très long terme, et ça notamment c'est grâce à Dirk.
Ouais, et ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, Thomas, c'est sa fidélité, justement. Il gagne le titre l'année où, justement, il y a le regroupement des trois stars, LeBron James, Dwayne Wade à Miami, qui est hyper décrié, alors que lui, comme tu l'as dit, 4 ans avant, il a cet échec monumental avec Dallas. Il passe pour un loser. Dallas est aussi une franchise de losers pendant les années 90, et il va finalement réussir à gagner le titre, et justement, face à cette équipe de Miami qui a mis à peu près tout le monde, tout ce qui était possible en leur pouvoir pour gagner, et lui, avec sa fidélité, avec une armada qui est moins développée, on va dire, en termes de talent individuel, va gagner. Donc ça, c'est beaucoup son mérite. Ce qui est formidable aussi, c'est que c'est un type qui vient de D2 allemande au début. Il est drafté par Milwaukee d'ailleurs, ouais, qui va le trader, donc le coup du siècle pour Dallas. D'ailleurs, ça fait 2 fois que Dallas fait des coups du siècle sur des trades avec des Européens. The Dantich, c'est la même chose. Il n'a toujours pas gagné, mais a priori, ça peut faire quelque chose plus tard. Et lui, quand il arrive en NBA, il est trop jeune, il n'est pas assez lourd, parce que comme tu l'as dit, il va révolutionner le poste 4, mais il est pas très lourd. Et quand on se cogne des Duncan, par exemple, bah, c'est très compliqué, des Garnett, voilà, des mecs hyper physiques, et lui, il va réussir quand même à passer outre ça, alors que la première saison en NBA est douloureuse. Limite, lui, il est pétrifié à l'idée d'aller jouer là-bas, parce qu'en plus, comme vous l'avez dit, les Européens n'ont pas encore pris toute la place en NBA. Donc, ce qu'il fait, c'est formidable, et il faut le redire, si tu l'as dit aussi, c'est important, il est le 6e meilleur marqueur de l'histoire. C'est un Allemand qui vient d'un petit village. C'est surréaliste, cette histoire, et c'est formidable ce qu'il a fait pendant 20 ans en NBA.
Ce que tu dis, Maxime, je suis désolé, Christophe, je te coupe, mais c'est vrai, et même lui, les doutes qu'il y avait à son arrivée, parce que c'est vrai, il faut voir les images au début, c'est quelqu'un avec Steve Nash, je crois qu'il arrive la même année que Steve Nash, si je me souviens bien, et en gros, il y a des gros doutes sur sa capacité à s'adapter, et il y avait beaucoup de doutes d'ailleurs sur les Européens, leur capacité à s'adapter au jeu NBA, au physique NBA, et Dirk l'a dit d'ailleurs, Don Nowitzki, il a donné une interview à Laurent Vergne il y a quelques années, quelques mois, je ne sais plus. Mais en tout cas, il expliquait aussi justement que même lui, il avait des doutes. Il arrivait dans la NBA, il n'était pas sûr de lui. Il ne pensait pas réussir à s'imposer et c'est devenu une légende du jeu.
Ouais, ça, le sujet de l'ouverture de la NBA aux Européens, évidemment, on va beaucoup en parler avec Gasol et Parker. Et moi, je voulais revenir sur le titre de 2011, ce titre. Il est magnifique et je pense pas me tromper en disant que c'est l'un des titres préférés du grand public qui a touché le plus grand monde dans les, allez, on va dire au 21e siècle pour faire simple, parce que Dirk, c'est ce que Thomas a dit tout à l'heure, il y avait ce côté loose, on pensait quasiment que c'était passé, voilà, comme disait Maxime, il y avait le regroupement, le début des super teams avec Miami, et cette année-là, il faut savoir quand même qu'ils sortent les Lakers en demi-finale de conférence, un sweep, les Lakers, donc ils sont champions en 2009 et 2010, hein, pas n'importe quel Lakers. Après, il tape Oklahoma City, donc la franchise qui monte, qui sera finaliste l'année d'après. Et ensuite, évidemment, cette finale contre Miami, où Dirk et Kidd et Yann Mainmi, Roderick Bobois écrasent le Heat, qui n'est pas encore bien construit, mais les images de Dirk champion, d'ailleurs, quand il est champion au coup de sifflet final, c'est il y a trop d'émotions, il y a tellement d'émotions pour lui qu'il part dans le vestiaire parce que c'est trop pour lui. Et vraiment, c'est des souvenirs magnifiques pour lui.
Et puis c'était vraiment la caricature, le hit détestable. D'ailleurs, c'est marrant de penser que LeBron a été comme ça à un moment, alors que lui, il est respecté ça. Quand il, je ne sais plus à quel match, le 2 peut-être, Nowitzki est malade, il le dit, et il se fout de lui clairement en venant avec le match Bosch, suivant, ouais. en faisant semblant par exemple, tousser, de se moquer de lui. Donc vraiment, c'était presque binaire cette finale-là, c'était le mal contre le bien, et bon, le Miami Heat a réussi à se faire accepter après, et puis on est rentré dans une ère des franchises, des super franchises, des super teams. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il incarnait une forme de résistance contre ce regroupement-là, et c'était assez formidable de le voir gagner ainsi.
2011 a remporté 4-2 par les Mavs face au Heat de Miami. Et moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que pour être le meilleur basketteur européen de l'histoire, il faut des titres. Il faut marquer des points, d'accord ? Il faut des titres. Il n'a qu'un titre. C'est peut-être celui qui a le moins de titres parmi tous les joueurs que vous m'avez cités. Est-ce que, par exemple, un Pau Gasol qui a deux titres, c'est pas au-dessus,
Glenn ? Bien sûr que si, c'est au-dessus. Mais il n'y a pas de débat. Alors, c'est au-dessus pour une autre très bonne transition, mon cher Adrien, mais c'est au-dessus pour d'autres raisons, j'allais dire. Si, c'est pour les titres, évidemment, mais pas seulement les titres NBA. Alors, et bien sûr, Gasol a deux titres de champion NBA, on s'en souvient tous, avec Kobe en 2009 et 2010, justement, comme Chris vient de le dire. Alors, c'est particulier, évidemment, parce que, contrairement à Dirk Nowitzki, ce n'est pas la star de l'équipe, c'était Kobe. Lui, c'était un excellent lieutenant de Kobe Bryant. Alors, en NBA, il a marqué, il a contribué aussi à faire évoluer l'image des Européens, évidemment, en NBA. C'est le premier Rookie of the Year européen en 2002 ou 2003, j'ai un doute, 2002, je crois. Mais surtout, ce qui me fait choisir Pau Gasol, moi, c'est surtout pour tout ce qu'il a fait sur le plan international, et notamment avec l'Aurora, parce que Pau Gasol, même s'il est deux fois champion NBA, c'est surtout un monstre international. Juste, je vais vous faire un petit, on va faire vite, parce que ça prend beaucoup de temps, mais en gros, de 2001 à 2015 à peu près, il a accumulé les médailles à l'international et les titres, pour résumer, trois titres européens, un titre de champion du monde, deux finales mythiques, j'allais dire, parce que c'est deux finales que, personnellement, que j'ai adoré aux Jeux Olympiques en 2008 et 2012 contre les États-Unis.
Et deux finales perdues. Hein.
Deux finales perdues, bien sûr, mais quand même, je ne suis pas sûr que Dirk Nowitzki ait des médailles olympiques. Mais,
non, bon. Mais bon, je suis incapable de citer un de ses coéquipiers en sélection nationale. Hein,
alors, il est vrai qu'il est merveilleux.
Denis Schroeder.
Il était merveilleux. Ouais, voilà, ouais. Je reconnais que Pau Gasol a eu aussi la chance d'avoir
Juan Carlos
Navarro, voilà, les Heroes de Oro, si je me souviens bien, avec Calderon, Garbarossa, etc., évidemment.
Mais, son frère Marc Gasol. Enfin, il y avait...
Là où je te rejoins complètement, Thomas, mais la grosse différence, c'est que le facteur X dans tout ça, c'était Pau Gasol. Et on s'en souvient tous, Euro 2013, il n'est pas là. Eh ben, l'Espagne ne va pas en finale et heureusement, d'ailleurs, tant mieux pour les Français. La France, tu en parleras tout à l'heure après, Christophe, j'imagine. La France est championne d'Europe, évidemment, en 2013. Alors, évidemment, c'est grâce notamment au talent de Tony Parker. Mais si la France est championne, c'est aussi parce que Pau Gasol n'est pas là. Et on s'en rappelle. Alors, moi, j'étais dans le stade à Lille, malheureusement, ce soir-là. Les demi-finales de l'Euro 2015, c'est une boucherie avec Pau Gasol. Il a plus de 35 ans. Il marche sur les Bleus avec un match à 40 points. C'est lui qui porte clairement l'Espagne vers le titre cette année-là. Et c'est l'image que je retiens, moi, de Pau Gasol. C'est vraiment cette domination, j'allais dire, sur la scène internationale, c'est-à-dire cette capacité à s'adapter au jeu FIBA et au jeu NBA, d'être aussi fort peut-être, et même plus fort encore dans le jeu FIBA. Parce que, on le sait, c'est aussi quelqu'un d'ailleurs qui avait gagné des titres avant d'aller en NBA avec le Barça. Il a été champion d'Espagne trois fois. C'est tout ça, moi, qui me fait dire que Pau Gasol, pour moi, est le meilleur Européen de l'histoire parce qu'il a vraiment marqué de son empreinte à la fois la NBA, mais aussi le basket international. Et même si, on sait, la NBA est mise sur la référence planétaire du basket, eh ben, ça compte quand même de briller sur la scène internationale pour moi.
Messieurs, vous voulez ajouter quelque chose à ce... Non, mais Pau Gasol, ça a été aussi un bourreau des Français, quand même, on en parle...
C'est le meilleur ennemi des Français, ouais.
Ah ouais. Ça vous fait mal, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas voulu le choisir aussi, parce qu'il vous a fait mal.
Personnellement, c'est un peu pour ça que je n'ai pas voulu le choisir, parce que c'est vrai qu'en tant que chauvin que je suis, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Mais après, moi, ça a été la limite en me posant vraiment la question de manière objective. Je me suis pas au gazole Nowitzki. Bon, c'est kiff-kiff, on l'a compris pour toutes les bonnes raisons que Glenn vient d'exposer. Moi, ce qui m'aurait manqué pour être vraiment avoir le titre officiel de meilleur joueur européen de l'histoire de basket, c'est justement qu'ils battent une fois les États-Unis. Alors, ça aurait pu être une finale des Jeux Olympiques, ils n'étaient pas loin, mais s'il avait fait ça une fois dans sa carrière, il aurait dominé au niveau mondial, au niveau planétaire du basket.
Ils sont
champions du monde, mais pas en battant les États-Unis. Hein.
Après, la finale 2008, et notamment la première mi-temps du match, c'est un niveau de basket.
C'est peut-être l'un des plus beaux matchs, je suis d'accord. L'un des plus beaux matchs, alors international, c'est presque sûr. Le niveau, ce jour-là, était fantastique.
Non, et moi, ce que j'aimais bien avec Gasol, c'est simplement le joueur, un beau joueur à avoir joué, tout simplement. Aussi, une élégance, toucher de balle, etc. Et il faut rappeler quand même, alors oui, évidemment, lui, il n'a pas été le visage d'une franchise, hormis Memphis, mais bon, c'était pas, voilà, c'est Memphis. Mais n'empêche qu'il a quand même succédé, finalement, dans l'histoire des Lakers, finalement, à Shaquille O'Neal, d'une certaine manière, dans le sens où il a permis aussi, c'était la deuxième lame qui a permis aux Lakers d'être champions et de redonner aussi un lustre à Kobe Bryant, qui, il faut le rappeler, quand la situation avec Shaquille O'Neal a fini par se détériorer, il s'est retrouvé tout seul. En gros, ça devenait James Harden au Rockets, c'est-à-dire que ça shootait, ça mettait 35 points de moyenne, mais ça ne gagnait plus rien. Voilà. Et Gasol, c'est quand même celui qui a permis à Kobe d'avoir, on va dire, cette seconde carrière qui était beaucoup plus positive aussi en termes d'image, parce que déjà Kobe n'était plus le numéro 2 derrière Shaq, et aussi se refaisait, on va dire, une image beaucoup plus positive parce qu'il faisait gagner les Lakers et parce qu'il y avait cette intégration de ce coéquipier-là, Pau Gasol, qui était un formidable lieutenant.
Et un formidable coéquipier. Parce que d'autres derrière n'ont pas réussi à, je pense à Dwight Howard ou des choses comme ça. C'est compliqué, je veux dire, de jouer. C'était compliqué à l'époque d'assumer l'exigence de Kobe Bryant, et Pau Gasol l'avait su le faire merveilleusement bien.
Si on doit se pencher sur un autre homme, un autre basketteur, qui est presque l'homme d'une franchise aussi, mais même si sur la fin de sa carrière, il a changé, mais Tony Parker, ça a été, alors peut-être pas le meilleur basketteur européen, même si Christophe a essayé de le défendre, mais le plus grand basketteur français de l'histoire, ça c'est clair et net. Christophe,
on parlait de Dirk qui avait évidemment marché sur l'NBA, de Gasol qui avait marché sur le basket international. Bah, finalement, Parker, il a un peu fait les deux. Hein. Il a été plus fort que Gasol au NBA et plus fort que Nowitzki en basket FIBA, même si Nowitzki a deux titres de MVP de tournoi. Je crois que c'est au début des années 2000 où il fait une médaille de bronze aux Mondiaux notamment. Mais Tony Parker, bah, déjà, je voulais commencer par une chose. Tony Parker est l'un des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Ça, c'est un scandale qu'il soit pas dans cette liste. Parker, je vais faire vite fait les grands chiffres, on les connaît. C'est 4 titres, 1 titre de MVP des finales, quand même 6 fois All-Star, mais il y a surtout d'autres chiffres qu'on connaît moins. C'est 11e au point marqué en play-off, 5e au nombre de passes décisives en play-off et 6e au nombre de matchs en play-off. Pour moi, le plus important avec Parker, le point le plus crucial, c'est qu'il a joué au très très haut niveau pendant 17 ans, de 2001 à 2018, avant de partir, comme tu disais, Adri, à Charlotte, montrer justement aux Spurs qu'il en avait encore un peu à donner. D'ailleurs, il a fait une belle saison pour finir, même si on aurait évidemment espéré qu'il finisse aux Spurs. Mais voilà, Parker, il est arrivé en NBA. Déjà, c'était difficile de penser qu'un meneur européen pourrait s'imposer en NBA. Les Spurs ont pris un très, très grand risque cette année-là. D'ailleurs, moi, il y a 2 ans maintenant, quand son maillot a été retiré, j'ai fait un long format pour un média concurrent autour de Tony Parker et de son héritage. Et c'est Ron Stewart, qui était son entraîneur au Paris Basket Racing, qui nous expliquait que, à cette époque-là, c'est sans doute encore un peu vrai, mais beaucoup moins, pour les Américains, c'était impensable de penser que quelqu'un pouvait être meilleur ailleurs. Et c'était surtout vrai pour les arrières, pour les meneurs de jeu. Quand Parker est arrivé, ça a été le premier meneur de jeu européen. Et de ce point de vue-là, il a ouvert des portes à d'autres après lui. On pense à Rubio, on pense à Doncic aujourd'hui. Sans doute que s'il n'y avait pas eu Tony Parker, il n'y aurait pas eu, ou il y aurait moins eu, ça aurait été plus difficile pour ces joueurs-là de s'imposer. Voilà, déjà c'est ça. Ensuite, évidemment, tu le disais, Glenn, il y a l'équipe de France dont il a été leader entre... Allez, on va mettre 2001 de côté, parce que 2001, il est très jeune, mais c'est surtout à partir de 2003. Donc ça a été très difficile. Il y a une médaille d'argent en 2005, une médaille de bronze, pardon, en 2005, et évidemment cette médaille d'or en Slovénie en 2013, qui le met tout en haut. D'ailleurs, cette année-là, il est évidemment élu champion français de l'année, puisqu'il va aussi en finale NBA, et qu'il est aussi dans la deuxième meilleure équipe de NBA, puisqu'il est sixième au titre de MVP. Ce qui prouve, et c'était l'autre point que je voulais aborder, qu'il n'a pas seulement joué avec Duncan, mais qu'il a aussi joué à côté de lui, en fait, finalement. Au tournant des années 2010, il est à minima co-leader des Spurs. C'est plus tout à fait l'équipe de Duncan, c'est aussi l'équipe de Parker. Et ça, je pense qu'on n'a pas tendance à l'oublier, mais l'aura de Duncan, qui est l'un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, fait qu'on se dit que c'était toujours lui le leader. Or, le meilleur joueur des Spurs dans la décennie 2000, pour moi, c'est Tony Parker.
Et puis, ce qui est formidable, ce que tu disais tout à l'heure, Parker, c'est aussi le gabarit. Je pense qu'il est plus simple, finalement, de s'imposer quand tu arrives en NBA, quand tu as le gabarit de Gasol, parce que tu es un grand, que tu as du talent. Lui, il arrive à 19 ans, il arrive aux Spurs, et il met 5 matchs, il me semble, à devenir meneur titulaire. Et rien
c'est
que
le
ça,
plus jeune meneur de l'histoire.
Ouais, c'est plus jeune à l'époque. Et meneur c'est titulaire, complètement délirant d'avoir fait ça. Il succède, je crois, c'était Avery Johnson, il me semble. Et voilà, c'est là-dessus, c'est légendaire parce que ce qu'il a fait et d'arriver à avoir un maillot retiré dans une franchise comme les Spurs, avoir gagné 4 titres, évidemment, c'est tout sauf anodin. Et en avoir, comme tu le dis, été le co-leader à un moment et d'avoir résisté aussi, parce qu'il faut le dire, à un coach comme Greg Popovich qui lui a mis des coups de pied au cul pendant toute sa carrière et surtout au début, la force mentale qu'il faut avoir, c'est pas anodin et de pouvoir se remettre toujours en cause et arriver à ça. Franchement, là-dessus, oui, chapeau Parker.
Il a été capable aussi, c'est pas donné à tout le monde, à tous ces championnats, de se remettre en question techniquement. Il y a eu un été où il avait repris son shoot quasiment entièrement pour essayer de gagner des fameux pourcentages. On sait qu'en NBA, on regarde beaucoup les pourcentages. Ceux de Dirk Nowitzki sont très, très bons d'avoir la matière. Mais Tony Parker, voilà, il y a eu un été où il a décidé, OK, ma mécanique de shoot n'est pas suffisamment bonne. Il faut le faire quand vous jouez déjà 8 mois tous les 2 jours. Et là, à l'été, OK, je vais reprendre mon shoot. Et on l'a vu, ça a porté ses fruits. Et derrière, il n'est plus devenu simplement, comme tu le disais, Christophe, un des lieutenants de Tim Duncan, mais il est devenu au moins son le co-leader des Spurs. Et comme tu l'as dit, Duncan, qui fait partie des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, quand tu es co-leader avec l'un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, c'est pas mal. C'est pas mal. Je reconnais, c'est pas mal, Tony Parker.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le shoot parce que au début de sa carrière, c'était pénétration. D'ailleurs, pour un moment, c'était même le joueur qui mettait le plus de points dans la raquette. C'est quand même assez incroyable pour un meneur. Et je pensais au shoot et je regardais tout à l'heure. Il shoot quand même à 49% en carrière, hein, Tony Parker. Ouais. Pour un arrière.
Pour un meneur, c'est.
Et on parlait de shoot signature avec Nowitzki. Il a son shoot signature aussi, son tir drop. C'est lui qui a vraiment apporté ça, ce petit lâcher de balle, on va dire, à une main au-dessus.
Mais il y a des meneurs stars actuels qui disent qu'ils ont pris exemple sur lui. Chris Paul, c'était son grand ami, mais Chris Paul a toujours dit qu'il a grandi, enfin pas grandi, mais quand il est arrivé dans la ligue, il a regardé jouer Tony Parker.
À quand un podcast sur Chris Paul d'ailleurs ? J'aimerais.
Quand il gagnera un titre.
J'adore. Quel joueur.
Ah, ils sont bien repartis, hein, les Suns aussi. Là. C'est un autre débat, je crois.
Exactement. On va rester dans nos joueurs européens. On va s'exiler un peu plus à l'est avec Maxime désormais, avec un certain Tony Kukoč, qui était peut-être un des pionniers des joueurs européens, ou en tout cas parmi les premiers à percer outre-Atlantique.
Ouais, on va s'exiler à l'est et dans le temps, parce que moi j'avais envie de parler aussi de cette époque où le basketteur européen finalement était peut-être un peu plus central. Il y a eu un moment où le basket aussi européen jouait de ce côté-là de l'Atlantique, était aussi central. C'est Tony Kukoč. Donc Tony Kukoč, c'est l'archétype du joueur qui pour moi est né trop tôt, c'est-à-dire qu'à une époque où l'NBA n'accueillait pas d'Européens. Les rares Européens qui étaient, c'était du Marcelonis à Golden State ou du Detlef Schrempf. Voilà. C'était des joueurs, on va dire, d'appoint dans ces équipes, mais à l'époque, ils ne valaient pas grand-chose. On va dire, ils n'avaient pas l'apport que va avoir aussi un Luka Doncic, par exemple, aujourd'hui. Tony Kukoč, justement, pour moi, c'est Luka Doncic avant l'heure. Si Tony Kukoč était né il y a 20 ans, il serait aujourd'hui le meneur ou l'ailier d'une de ces équipes-là, le point forward, et il aurait des stats complètement délirantes. Kukoč fait 2m08, c'est un joueur qui a un talent et une grâce innée, qui est capable de shooter de loin, qui a un shoot, qui a un jeu de passe lumineux et qui détonne un peu à l'époque. Et c'est surtout, je trouve qu'à l'époque, il joue à Split au début de sa carrière, donc en Yougoslavie, la Croatie après. Et c'est un fantasme un peu, c'est le basket de l'autre côté du mur, c'est les Yougoslaves, une équipe pleine de talent. Il va être champion du monde d'ailleurs avec la Yougoslavie en 90. Il va être vice-champion olympique deux fois, une fois avec la Yougoslavie en 88, puis après avec la Croatie, j'y reviendrai en 92, champion d'Europe aussi en 91. On va dire que le tournant des années 80-90, c'est vraiment les années Kukoč où il gagne tout. La Coupe des champions, l'ancêtre de l'Euroleague, il la gagne trois fois de suite avec Split. Il va même perdre une finale. J'allais dire Dieu merci pour le basketball français avec Trévise en 93. Il règne vraiment sur le basket européen et on se retrouve justement à un moment où l'NBA commence à percer de ce côté-ci de l'Atlantique et où les general managers, ça y est, ils ouvrent un peu leurs écoutilles et ils regardent. Et évidemment, il y a déjà Dražen Petrović, le regretté Dražen Petrović, qui n'aura pas peut-être la carrière méritée, on va dire, en NBA, mais il y a Jerry Krause aux Bulls qui sent le coup venir et qui en 90 se dit: lui, on va le drafter, donc c'est-à-dire qu'on prend les droits sur ce joueur, et s'il arrive en NBA, il sera pour les Bulls. Il est drafté à la 29e position, et en fait, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est qu'évidemment, les Chicago Bulls, c'est l'équipe de Michael Jordan, de Scottie Pippen, et eux, ils ne voient pas ça d'un bon œil de voir Kukoč, parce qu'il y a une espèce de regard un peu de haut, de dire, mais c'est, enfin, qui c'est ce type, il ne va pas nous apprendre la vie. Surtout Pippen qui est, on va le dire, carrément jaloux, parce que Pippen, on le sait, jusqu'à la fin de sa carrière à Chicago, n'aura pas les contrats qu'il mérite. Et il se dit, ce type-là va venir me manger à ma table et il va peut-être me piquer, il va m'ôter le pain de la bouche. Et ce qui est assez drôle, c'est que leur première rencontre à Pippen, Jordan et Kukoč, c'est au jeu de Barcelone. Les Jeux de Barcelone, c'est la Dream Team. Ils vont le jouer en finale, mais ils vont aussi le jouer en premier tour. Et à ce moment-là, ils se donnent une mission, c'est de lui botter le cul à Kukoč. Kukoč fait un match cataclysmique, traitement spécial de Jordan et de Pippen. 4 points, 7 ballons perdus à 2 sur 11. Il se rattrapera en finale où la Dream Team gagnera 32 points. Pardon. Je crois que c'est le plus petit écart d'ailleurs sur les Jeux Olympiques de la Dream Team. Mais il marquera quand même 16 points et fera 9 passes en finale. Et finalement, il va rejoindre les Bulls. Alors lui, il rejoint les Bulls. Normalement, il veut jouer avec Michael Jordan. Manque de peau, c'est au moment où Jordan donne sa première retraite. Donc, il se retrouve en deuxième lame derrière Pippen. Et très vite, les Bulls vont lui faire confiance parce que finalement, il a le jeu. Il s'adapte assez bien. Ça prend un peu de temps, mais notamment en match de play-off, c'est la fameuse bouderie de Scottie Pippen où à la fin du match 3 contre les Knicks, Pippen se dit aujourd'hui, Jordan n'est plus là, donc le shoot de la gagne, il est pour moi. Il y a égalité. Les Bulls sont menés 2-0 par les Knicks. Et Phil Jackson dessine un schéma de jeu pour Kukoč. Pippen doit lui faire la place. Pippen boude, va s'asseoir sur le banc. Ça avait fait une énorme polémique à l'époque. Et Kukoč va mettre son shoot. Donc Kukoč aussi, il se fait ce nom-là aussi à ce moment-là, à l'époque où NBA ne shoot pas non plus beaucoup à 3 points. Et lui a déjà cette distance de jeu. Et évidemment, les meilleures années de Kukoč avec les Bulls, c'est quand évidemment, Jordan va revenir. Il sera meilleur sixième homme. Il va aller jusqu'à tourner à 18 points de moyenne, il me semble. Et il va gagner 3 titres. C'est quand même un joueur qui a gagné 3 titres de champion d'Europe en club, 3 titres de champion NBA aussi. C'est un palmarès XXL. Et alors, évidemment, la suite va être un peu moins gratifiante parce qu'il vieillit. Finalement, je crois qu'il passe à Philadelphie. Et Milwaukee deviendra, on va dire, un joueur un peu lambda dans l'NBA. Mais vraiment, moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'a pas eu la chance, on ne choisit pas quand on est, évidemment, de jouer dans cette époque dorée, parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez Kukoč qui joue en Europe aujourd'hui, il est drafté numéro 1 ou numéro 2, il n'y a même pas à chercher, parce qu'il a les qualités que va avoir un Doncic en plus fin, on va dire, mais il y a cette même qualité de passe, cette même intelligence de jeu. Et moi, le seul regret, c'est de ne pas l'avoir vu à cette époque, mais il incarne aussi un basket, on va dire, d'un autre temps, de cette fameuse équipe de Yougoslavie qui était monstrueuse du basket de l'Est, qui était flamboyant.
Belle histoire.
Très belle histoire, Tony. Ouais. Très belle histoire. Et c'est ce que tu dis, moi, ce qui me plaît dans Tony Kukoč, c'est ce qu'il faut dire, c'est qu'il a dominé l'Europe pendant des années. Il est parti en NBA. C'est vraiment l'un des plus beaux palmarès, je pense, des Européens. Encore à l'heure actuelle, entre ses titres avec Split, ses titres avec les Bulls, ses titres avec la Yougoslavie et ce qu'il a fait aussi avec la Croatie derrière.
Je peux me tromper, mais je pense que c'est le joueur de l'histoire à gagner 3 fois l'équivalent de l'Euroleague, 3 fois titre NBA. Et bon, il s'arrêtera à un titre de 6e homme, mais quand même, à l'époque, encore une fois, ce n'est pas rien parce que les Européens n'ont pas la place qu'ils ont aujourd'hui. Et je pense qu'il a quand même aidé à ouvrir tout ça.
Où je suis totalement d'accord, et surtout par son profil, c'est ce que tu dis, il savait tout faire, c'était un joueur hyper élégant à regarder jouer, et je crois que les Bulls lui ont donné, si je me souviens bien, lui ont donné sa chance pour être un peu le numéro 1 après le départ justement de Jordan, ouais. Et le départ de Pippen, ça a été, pas forcément une grande réussite, Mais en tout cas, c'est vraiment un profil. Ce qui est, pour moi, c'est le profil de joueur qui a permis en fait, d'ouvrir, de faire changer les mentalités en NBA. Et voilà, ce que j'ai adoré, c'est ce côté idole européenne, parce que c'est vrai, c'était une idole à Split, c'était même plus que ça, qui a su en gros s'adapter pour devenir un équipier modèle de Jordan et participer, parce qu'il a eu un rôle clé dans les trois titres des Bulls.
Ouais, et il arrive tard en NBA par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'évidemment, ouais. Je crois qu'il est né en 68, donc à 23 ans, il a tout gagné quasiment en Europe. Donc voilà, il faut un peu le temps de franchir le pas. Mais une fois qu'il franchit, il est déjà un peu plus vieux, c'est un joueur plus mûr. Donc ça l'a aidé aussi, je pense, à s'adapter. Et on parlait tout à l'heure de Gasol et de milieu hyper concurrentiel avec Bryant. Se retrouver avec Jordan en étant européen, je pense que ce n'était pas une sinécure non plus. Il l'a vu au moment de... Mais ça les a rassurés, je pense, la finale des Jeux aussi, quand il a relevé le gant. C'est-à-dire que le premier match des Jeux contre la Croatie et contre les États-Unis est cataclysmique. Et puis, il voit quand même qu'il a quelque chose dans le ventre, que ce n'est pas un mec seulement soft. Les mecs qu'on accepte finalement aujourd'hui en NBA, on a cette impression-là. Donc voilà, c'est une carrière formidable qui a manqué, voilà, comme tu dis, à la retraite de Jordan, de reprendre le flambeau. Mais là, ce serait un peu dur de le mettre à son passif parce que Jordan s'en va, Pippen s'en va.
Non, mais ça en dit déjà long que les Bulls ont pu imaginer qu'en gros, il avait peut-être la carrure pour aller à cette époque-là. Ça en dit beaucoup sur le talent de notre ami croate.
Ouais, c'est une autorité aujourd'hui, Kukoč, hein, quand il parle. Ouais. Quand il parle, il est écouté en Europe, il est écouté aux États-Unis, ce qui prouve bien la place qu'il a à la fois dans le basket européen et dans le basket NBA.
Fabuleux destin, en tout cas, de Kukoč.
Pour le coup, il a vraiment tout gagné. Je tiens
à lui, il a tout gagné. Donc voilà, vous pouvez voter pour Maxime Dupuis. D'accord avec lui.
Non, c'est vrai que tu parles des Jeux, ça aurait pu être une belle cerise. Bon, battre la Dream Team en 92 était difficile, mais si la Yougoslavie n'avait pas éclaté, ils auraient eu une équipe. Ils auraient eu une équipe qui aurait pu, en tout cas, plus concurrencer les États-Unis.
La chance, c'est 88, en fait. Mm. C'est que la finale contre l'URSS, c'est peut-être là, à ce moment-là, mais après, bon, ils ont rattrapé le coup, on va dire, sur la suite. Mais
c'est dire la carrière, si le regret, c'est pas avoir de titre olympique, c'est que la carrière est plutôt solide.
Mais on voit bien qu'en termes de palmarès, c'est difficile de sortir un nom, parce qu'ils ont tous les joueurs dont on parle gagné énormément.
Sauf
il
manque
toujours Tony Kukoč, il n'y a pas les Jeux. Pas au Gasol, moi je parlais des Jeux, il manque. Bon, l'Euroleague, ce n'est pas forcément dramatique pour lui, mais il a eu une chance là.
Il a eu une petite chance.
À Barcelone, ouais. Il perd en finale. Ça aurait pu rajouter une ligne sur un gros palmarès déjà, un gros CV. Mais bon, ce n'est pas forcément en termes de palmarès, parce qu'on ne choisit pas quand on est, on ne choisit pas avec quelle nationalité aussi on va défendre ses chances. Pour Nowitzki, il n'est pas tombé dans le bon pays au niveau international, et pourtant, il a quand même réussi à avoir quelques résultats probants. En tous les cas, il a été MVP, lui, à titre personnel. Il ne pouvait pas faire beaucoup plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas en termes de palmarès, c'est en termes d'émotion. Et puis après, est-ce qu'on s'attache vraiment aux performances purement individuel, c'est là où moi, pour moi, Nowitzki, il n'y a pas de débat, mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'arguments. Alors, Tony Kukoč, là, j'entends plutôt un choix du cœur que choix de la raison, mais il y a la patte gauche qui nous a fait.
Ouais, enfin, quand même.
Ouais,
non. Le palmarès, c'est quand même pas, c'est pas ridicule, quand même.
Je dis pas que c'est un choix.
Non, mais parce que, on parlait de choix du cœur, mais il y a un peu de ça, mais parce qu'évidemment, on entend Kukoč, on entend Drazen Petrović aussi à cette époque-là. Oui. Voilà.
Ouais.
On peut dire,
raconte un petit peu, parce que là aussi il y a un destin plus tragique là.
Oui, c'est plus tragique. Il s'est tué en juin 93 en Allemagne en voiture. Il avait 28 ans. C'est une machine absolue, un scoreur incroyable.
On commençait à lui donner vraiment sa chance.
Voilà, c'est ça. Et ce qui lui manque, c'est que il se retrouve déjà dans les mauvaises franchises. Alors à Portland au début, c'est parce que Portland est très fort et qu'à son poste, il y a aussi des joueurs qui sont très bons et ça fonctionne. Et puis les Nets, c'est à l'époque, c'est la poubelle, tout simplement. C'est
après, il tourne à 20 points de moyenne aux Nets.
Exactement.
Plus de 20 points de moyenne sur ces deux dernières saisons.
Ce qu'il a manqué, alors on a le regard de la NBA, évidemment, il n'y a pas que ça qui compte, mais c'est vrai qu'il est aussi considéré comme le plus grand, avec des Beloff et des compagnies. Voilà. Et à l'époque, justement, je regardais tout à l'heure qu'il y avait, en 91, ils élisent les 50 meilleurs joueurs de l'histoire à FIBA. Belov est 1, Drazen Petrovic est 2, voilà, tout simplement, pour donner une idée. Et Kukoč a 23 ans et déjà 6. Donc, voilà. Mais évidemment, il y a Drazen Petrovic, et on pourrait parler de Belov aussi. Adrien, je te pique la transition. Mais
tu peux y aller, vas-y, mais je vois bien, de toute façon, il y en a plein. Il y en a un qui vous
ouvre. Ah, mais il y en a un qui est en train d'arriver et qui déjà.
Un grand grec, tu veux dire?
Oui, un grand grec qui.
Giannis Antetokounmpo.
Espèce de réincarnation de Shaquille O'Neal en 10 fois plus mobile. Et, enfin, 10 fois plus mobile, peut-être pas quand même, mais plus mobile. Et qui incarne vraiment le basket de l'heure. Et qui, lui, pour le coup, on parlait tout à l'heure de Nowitzki, lui aussi gagne avec une franchise qui ne gagnait plus, Milwaukee Bucks, et qui a déjà 2 titres NBA. Donc lui, je pense que. Vous pouvez imaginer que ça ne va pas tarder à rentrer dans la discussion.
Moi, je me suis clairement posé la question, d'ailleurs, pour Giannis, là, parce que déjà, même s'il a 26, 27 ans, il a déjà réussi des performances en NBA que les autres n'ont pas réalisées, en tout cas aussi impactant. Ben, pour moi, c'est le seul, même dans tous ceux dont on a parlé avant, c'est le seul qui domine vraiment la NBA, vraiment. Je trouve qu'il y a une impression avec lui qu'il n'y a pas eu, même avec Dirk Nowitzki, même alors Pogazol, je ne mets pas, même évidemment pas avec Tony Parker, parce que cette impression de, pour moi, c'est lui le boss en gros NBA à l'heure actuelle, ce que j'avais pas forcément eu comme impression avec ceux qu'on a cités avant. Mais et puis les doubles MVP, personne, aucun pour le moment, aucun Européen ne l'avait fait.
Nicolas Jokic pourrait peut-être le faire bientôt.
Bien sûr, c'est ce que tu dis, il y en a d'autres derrière. Il est
reparti sur des grosses bases.
Il faut que ça franchisse. Mais oui, je suis d'accord. Et lui a su mener sa franchise, je parle de Giannis, bien sûr, sa franchise au titre. Mon seul bémol, pardon Maxime, après je te laisse. Mon seul bémol avec Giannis, c'est son adaptation au jeu FIBA. Et c'était, voilà, Thomas fait le geste du shoot. Voilà, c'est le petit bémol, il n'a pas une énorme capacité à. Pour le moment, il n'a pas montré une énorme capacité à s'adapter au jeu FIBA. On l'a vu avec la Grèce. Ce n'est pas le Giannis qu'on voit en NBA. Et je trouve, du coup, c'est mon petit bémol. J'attends de lui qu'il domine autant en FIBA que ce qu'il montre en NBA. Ça arrivera peut-être, sûrement, parce que vu le potentiel et le talent du bonhomme, je pense que c'est une question de temps. Mais voilà, c'est mon petit bémol avec lui. Même si je pense que sur le long terme, et d'ailleurs on en pourra en parler d'autres derrière, il rentrera dans la discussion des plus grands basketteurs européens de l'histoire. Je pense évidemment à Doncic, dont on parlera forcément.
C'est marrant parce que j'en avais parlé lors d'un tournage Eurosport d'ailleurs avec Flo Pietrus, que justement, oui, en basket FIBA, il y a moins de place dans la raquette, donc c'est plus compliqué. Et pour l'instant, il n'a pas eu la clé. Alors évidemment, en plus, il n'y a pas forcément l'équipe nationale pour, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre ce qu'il montre en NBA et ce qu'il montre en basket FIBA. Et autre chose, et c'est le lien avec Nowitzki, c'est marrant, c'est un truc, ça va être un truc d'Européen d'avoir ce côté attaché à l'équipe qui vous a donné votre chance. Parce que Giannis, ça fait partie de ces joueurs-là qui, à un moment, je pense que si Giannis est américain, je ne suis pas certain qu'il reste à Milwaukee. Typiquement. Et là, il y a eu ce côté de se dire non, mais moi, je re-signe avant mon contrat longue durée. J'aime cette ville qui n'est pas un gros marché où ça change des conditions climatiques de la Grèce, Milwaukee, le Wisconsin. Et pourtant, il est resté, il est allé au bout et c'est formidable parce qu'aujourd'hui, évidemment, pour gagner, on ne gagne pas tout seul. Mais Middleton et Jrue Holiday, ce n'est pas forcément le big three comme on l'entend. Big three, non. Voilà. Mais n'empêche que c'est un big three qui gagne et ça c'est fantastique et ça le rapproche pour moi de Nowitzki et j'aime bien cette idée-là de penser qu'un marché un peu moins attractif puisse gagner parce qu'il y a des joueurs qui sont attachés à lui et d'un talent fou et Giannis et ça et en plus alors c'est un détail mais il a un sens de l'humour assez formidable donc il coche à peu près toutes les cases pour devenir une immense star enfin qu'il est déjà mais pour gagner encore plus.
Il est encore très jeune ouais.
Non, on parlait de l'émotion avec Dirk Nowitzki, mais l'émotion avec Giannis Antetokounmpo, elle est là tout le temps. On a pour lui aussi, on a dit que c'était un loser. Il y a eu cet échec contre Toronto en finale de conférence en 2019, où Milwaukee mène 2-0, ils perdent 4-2, Toronto est champion derrière en profitant entre autres des blessures à Golden State. Donc oui, pour moi, Giannis. Il a tout ce qu'il faut pour être dans les 5 ans le meilleur joueur européen de l'histoire, sans discussion.
Et j'ajoute juste pour conclure, vas-y Glenn.
Sauf si certains, parce qu'il y en a qui arrivent derrière, on est obligé d'en parler vite fait. Évidemment, Luka Doncic, ce que fait Luka Doncic, qui a été champion, je le répète juste, avec la Slovénie déjà en Europe et avec le Real aussi en Europe, ce qu'il fait depuis 3 ans en NBA est juste monstrueux. Ce qu'il faut maintenant, il est tout jeune, c'est qu'il arrive à faire grimper Dallas jusqu'au sommet de la Ligue.
De toute façon, sinon, il souffrira toujours de la comparaison avec Nowitzki.
Et voilà, il y a Jokic aussi, évidemment. Thomas en a parlé tout à l'heure, mais ça, c'est
forcément. Je conclue sur Giannis. Ce qui est formidable, c'est qu'il a un jeu finalement anachronique aujourd'hui. C'est un intérieur qui a besoin de vivre dans la raquette, alors qu'aujourd'hui, il s'écarte encore plus. Et il fait mieux que vivre par ça. Il fait gagner sa franchise. Donc,
oui, il est anachronique parce qu'il reste dans sa franchise. Dans les 10 meilleurs joueurs NBA c'est aujourd'hui, c'est le seul avec Stephen Curry à être toujours dans la même franchise.
Passionnant, messieurs, ces discussions. On pourrait rester des heures pour faire le tour. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nos journalistes ont pris à participer. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, messieurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort. Salut!
Bon, au revoir.
Allez, allez.
Salut tout le monde.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.